Vous écoutez Secret d'Histoire, Madame du Barry, coup de foudre à Versailles. Deuxième partie.
En ce printemps 1768, Louis XV n'a jamais entendu parler de cette Jeanne Bécu de Vaubernier, alias Mademoiselle Lange, protégée du roué Jean du Barry. Plus que jamais, le roi est sujet à la dépression chronique dont il souffre depuis toujours. À l'approche de la soixantaine, la mort s'acharne à faire le vide autour de lui. En 1764, il a perdu celle qui fut sa maîtresse officielle, la marquise de Pompadour. L'année suivante, c'est son fils, le dauphin, emporté par une tuberculose pulmonaire. Quant à la reine, Marie Leszczynska, ça fait bien longtemps qu'il n'entretient plus avec cette pieuse vieille dame d'autres rapports que protocolaires. Si le roi continue à multiplier les aventures d'un soir, le cœur n'y est plus. On murmure même qu'il aurait connu tout récemment un fiasco sexuel des plus embarrassants avec une certaine madame de la Poplinière. Le cœur et le lit du roi sont donc à prendre. Les grands de la cour, à commencer par le tout-puissant duc de Choiseul, ne rêvent que d'une chose, y placer une femme de leur clan.
En cette année 1768, cela fait 10 ans que le duc de Choiseul gouverne la France. Le maréchal duc de Richelieu, grand admirateur de Jeanne Bécu, a décidé de passer à l'offensive.
Il voudrait la place de Choiseul et il pense que, en mettant dans le lit du roi une magnifique créature, eh bien, il pourra gouverner le roi et obtenir satisfaction pour lui.
Richelieu n'a pas le sentiment au départ que Jeanne est la femme de la situation. Il est même horrifié à cette idée de mettre une fille à partie dans le lit du roi de France.
Jacques de Saint-Victor, historien.
Mais c'est du Barry qui pousse Richelieu en lui disant, avec son aplomb considérable, que ça pourrait être la bonne solution.
Pour que Jeanne puisse avoir accès au roi, les deux compères n'ignorent pas qu'ils doivent d'abord mettre dans leur jeu un personnage incontournable, Dominique le Bel, premier valet de chambre de Sa Majesté.
On l'appelait le ministre des plaisirs de Louis XV. Et alors, le Bel avait le coutume d'essayer la chair fraîche, tout simplement.
Le Bel les expérimente, il les goûte et il voit si elles sont valables pour son maître.
Evelyne Levert, historienne.
Louis XV, du fait d'une mésaventure qui lui était arrivée avec la fille d'un boucher dans les années 1740, était hanté par les maladies vénériennes. Louis XV appelle le Bel « mon cher Dominique ». Ça en dit long sur la complicité entre les deux hommes. Bref, ce le Bel est chargé des basses œuvres galantes au profit de Louis XV.
Jeanne réussit l'examen avec son brio coutumier. Et c'est nantie du précieux sésame que Richelieu la place sur le chemin du roi.
Louis XV aperçoit la petite Jeanne Bécu et évidemment, il se dit, comme tout le monde, quelle jolie femme.
Le Bel lui fait croire que la personne qu'on lui présente s'appelle la comtesse du Barry. Or, elle s'appelle Mademoiselle de Vaubernier ou Mademoiselle Lange, comme elle est connue dans la galanterie parisienne.
Et on ne lui dit pas qu'elle a couché avec tous les seigneurs de la cour.
Ce soir, Jeanne a rendez-vous avec son destin. Et elle va saisir sa chance à bras le corps.
Le roi, qui ne prenait plus plaisir à rien, est subjugué par cette femme.
C'est véritablement un coup de foudre et elle est sous le charme de ce vieux roi qui est encore très élégant, très bien fait de sa personne et qui est d'une gentillesse folle.
Michel de Decker, historien.
Il confie ses impressions au duc d'Ayen, lequel sourit et lui dit « c'est que votre majesté n'est jamais allée au bordel ».
Quelques semaines plus tard, le roi perd sa femme, la reine Marie Leszczynska. Le deuil passé, il prend alors la décision que lui dicte son cœur, officialiser sa liaison avec Jeanne.
Pour le Bel, c'est une catastrophe quand le roi commence à lui demander de présenter Madame du Barry à la cour. Parce que c'est impossible. Le règlement royal de 1759 est très ferme. Pour être présenté à la cour, il faut être non seulement d'une noblesse immémoriale, mais il faut être une femme mariée. Or, Mademoiselle Lange, Jeanne, n'est pas mariée. À ce moment-là, Lebel est obligé de révéler le secret à Louis XV. Louis XV était en train de tisonner le feu à ce moment-là. Il se retourne, menace Lebel avec ses pincettes et lui dit « Tant pis, qu'on la marie ».
Il veut continuer, malgré ce qu'il apprend. Et on sait combien il était timide, extraordinairement timide, Louis XV.
Jean-Christian Petit-Fils, historien.
Et l'idée d'imposer cette femme à la cour, eh bien, c'est une manière de défi, de les provoquer, de les humilier, en leur imposant une prostituée.
Il faut donc que Jeanne épouse en urgence un aristocrate. Déjà marié à Toulouse, le roué du Barry n'est pas disponible. Il songe alors à son frère, qui vit retiré à la campagne.
Guillaume du Barry n'était évidemment pas un saint et on avait dit qu'il était capable d'épouser sa vachère pour de l'argent.
On va la marier hâtivement, un mariage à la détrempe, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une manière de mariage blanc.
L'indispensable cérémonie se tient donc le 1er septembre 1768 en la paroisse Saint-Laurent, sur le coup des 5 heures du matin.
Du Barry s'intitule haut et puissant seigneur, gouverneur du village de Lavaignac. Il présente le frère Gomard, donc, qui est le père supposé de Jeanne, comme aumônier du roi. Il n'a jamais été aumônier du roi. Donc, tout cela est donc totalement fictif.
Et pour assurer le triomphe de sa nouvelle belle-sœur, le roué du Barry a mis toutes les chances de son côté.
Ce n'est pas un titre extrêmement brillant que celui de du Barry, mais on raconte que les Barry sont liés à la noble famille des Barrymore en Angleterre.
Bref, c'est un peu extravagant, mais le généalogiste du roi ferme les yeux.
Donc la nouvelle Madame du Barry va adopter le blason des Barrymore et la devise « bouté en avant », qui, ce plan militaire, a une signification, mais évidemment qui en prend une autre quand on considère la dame en question, ce qui va aussi beaucoup amuser la cour, et en particulier son ennemi, Monsieur de Choiseul.
Mais la partie n'est pas encore gagnée, car la future présentée a encore pour obligation de se trouver une marraine.
À l'époque, Choiseul est l'homme le plus puissant de la cour. Il est quasiment le vice-roi. Il se comporte comme un maire du palais. Et donc, il interdit à toutes les femmes de la cour d'accorder leur marrainage à Madame du Barry. C'est donc très difficile pour le clan Richelieu de trouver une femme qui accepte.
Et c'est finalement une dame de Béarn qui va accepter, moyennant finance, 100 000 livres, ce qui n'est pas négligeable du tout.
Et on a une comtesse du Barry qui va être présentée à la cour.
Dans les cours étrangères, on parle de la présentation, à tel point qu'au cours d'un dîner, il y a un brave abbé qui dit « Ah, la présentation de notre Seigneur au temple !» Mais il ne s'agit pas du tout de cela, il s'agit de la présentation de Jeanne du Barry à la cour de France.
Le 22 avril 1769, la présentation de Jeanne à Versailles a enfin lieu.
Madame du Barry est en retard.
Elle a perdu des heures pour confectionner une coiffure extravagante avec de nombreux rubans, des pierreries.
Des petites fleurs qui baignent dans des petites fioles d'eau qu'on a dissimulées dans ses postiches.
Elle est splendidement vêtue dans une robe de gourgouran blanc. Toute la cour est sidérée par la grande distinction de cette femme. C'est l'incarnation de la beauté qui entre.
Elle saura faire les trois révérences en avant devant le roi et puis les trois qui sont beaucoup plus difficiles en arrière.
Elle est élégante, elle est svelte, elle est souple, elle est souriante et je crois que tout le monde tombe sous le charme.
Pour Jeanne, la première manche est gagnée, même si la famille royale est scandalisée.
Les têtes sont un peu fermées, mais la présentation s'est faite. Et c'est à partir de ce moment-là donc, qu'elle va pouvoir être de toutes les fêtes, monter dans le carrosse du roi, participer aux jeux du roi et des courtisans, être vraiment dans la cour.
Malgré sa position élevée, Madame du Barry à Versailles est quelqu'un de très isolé. Et ce qui fait que la société de Madame du Barry est assez réduite.
Le roi essaye de lui trouver quelques personnes qui pourraient lui être proches, comme la duchesse d'Aiguillon ou la maréchale de Mirepoix. Mais ce ne sont pas vraiment des amis, ce sont plutôt des alliés.
Du Barry fait venir auprès d'elle sa sœur, qu'on appelle Chon du Barry. C'est une petite femme, intelligente, habile, pas jolie du tout, bossue, mais qui a beaucoup d'esprit.
Elle a l'intelligence des gens et des situations. Donc elle lui conseille un certain nombre d'actions, ou justement de non-actions, pour ne pas commettre certains faux pas.
Et les conseils avisés de la petite Chon ne sont pas de trop pour affronter le redoutable duc de Choiseul, qui a dû revoir tous ses plans.
La sœur de Choiseul, qui est la duchesse de Gramont, aurait bien voulu être la maîtresse du roi.
L'idée, c'est que Choiseul contrôle le pouvoir politique, et puis que Madame de Gramont, eh bien, dirige le roi. On veut en faire un Childéric, elle le dira. On veut le réduire à un roi mérovingien.
Elle avait été extrêmement maladroite avec Louis XV, en se jetant pratiquement à son cou, et Louis XV l'avait refusé. Et pour Choiseul, l'idée de voir à sa place Madame du Barry lui est complètement insupportable.
Dès lors, le duc de Choiseul déclenche une guerre sans merci. Son objectif, éliminer Jeanne.
Louis XV est un roi suffisamment habile pour faire la distinction entre ce qui relève des affaires privées et ce qui relève des affaires publiques. Choiseul est pour lui un excellent ministre. Il est un très grand diplomate, on l'a surnommé le cocher de l'Europe. En même temps, il sait très bien que sur le plan humain, Choiseul est un personnage infect. C'est un grand seigneur hautain, méprisant, sans scrupules. Il sait ou il se croit indispensable auprès du roi.
Et donc il va la persécuter, il va la détester, il croit qu'il réussira à la déstabiliser et à la chasser.
Il n'hésite pas à aller très très loin avec elle. Et le roi lui-même est obligé à plusieurs reprises de lui dire « Soyez un peu plus généreux envers Madame du Barry. »
Je pense qu'elle a fait des offres, des tournées, mais des offres de paix avec Choiseul. Elle voulait simplement être juste considérée. Choiseul a renvoyé ça avec hauteur.
Chansons, libelles, pièces de théâtre, Choiseul finance en sous-main une campagne de dénigrement systématique de la favorite. Pour prendre la mesure de ce déchaînement de violence, il faut se rendre dans les réserves de la bibliothèque municipale de Versailles.
Un ouvrage tout à fait intéressant. Il s'agit d'un recueil de libelles du temps.
Christophe Thomé, conservateur à la bibliothèque municipale de Versailles.
Et je tombe là notamment sur une chanson sur Madame du Baril. Nous sommes invités à chanter donc sur un air de l'époque intitulé « Lisette ramène au champ ». Drôlesse, pourquoi donc tant de fierté? Princesse, d'où te vient ta dignité? Si jamais ton teint s'efface et s'en aille, chétif catin, tu quitteras Versailles. Et nous avons en regard donc cette pièce manuscrite elle aussi, qui s'intitule « Très humble remontrance des filles de Paris ». Il faut entendre par « filles de Paris » les prostituées. À Madame du Baril. Donc remontrance, supplique en quelque sorte qu'elle se permette de lui faire, reconnaissant la comtesse l'une d'entre elles.
Ce qui est assez singulier et amusant, c'est que Madame du Barry lira toute cette presse ordurière, pornographique, avec un sourire. Elle s'en amusera. Agnès Pompon, on la surnomme Agnès Pompon. Mais elle trouvera que c'est pas méchant. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres méchancetés. Elle ne se plaindra jamais de tout cela. Elle le prendra avec bonne humeur.
Il y a un pamphlet qui s'appelle « L'apothéose du roi Péto ». Ce clan n'hésite pas, y compris, à attaquer le roi à travers la du Barry. Louis XV se montrera particulièrement sans scrupules dans la chute de Choiseul. Il a considéré que Choiseul était allé trop loin avec Madame du Barry, qu'il a humilié Madame du Barry, et en conséquence de quoi, le roi a perdu ce qu'il accordait jusqu'alors à Choiseul, qui était une sorte d'affection, en tout cas de respect pour le grand diplomate qu'il était.
Choiseul est carrément disgracié, exilé.
Raphaël Masson, conservateur au château de Versailles.
Madame du Barry va peut-être juste être là pour donner le coup de pouce nécessaire. C'est pas elle qui a orchestré de A à Z la chute de Choiseul. Elle a été là pour peut-être emporter la décision du roi au dernier moment.
À peine débarrassée de son ennemi Choiseul, Jeanne doit maintenant en finir avec son encombrant passé qu'incarne toujours le remuant Jean du Barry.
il ne peut plus tirer d'argent de son ancienne maîtresse, puisque celle-ci est devenue celle du roi.
Il commence à se comporter comme un véritable patron. Il traite le roi de son frérot, ce qui est évidemment tout à fait scandaleux. Et il demande de l'argent, mais des sommes considérables. Il demande plus de 500 000 livres un jour à la du Barry.
Pour prix de sa tranquillité, le roi offre à Jean du Barry l'équivalent de plusieurs châteaux en province. À charge pour lui de regagner sa Toulouse natale et de ne plus jamais reparaître à Versailles.
Le roi rompt le lien étroit qui unissait Madame du Barry à son protecteur, on pourrait dire à son proxénète. Et à partir de ce moment-là, elle devient pleinement une nouvelle femme, la maîtresse officielle du roi.
Jeanne et le roi sont désormais libres de vivre pleinement leur amour, à la cour comme à Louvienne.
Dès 1769, Louis XV offre à Jeanne un cadeau digne de leur amour, le vieux château de Louvienne, Lucienne, comme on disait alors, et dont il lui accorde l'usufruit jusqu'à la fin de ses jours. Le magnifique tilleul a d'ailleurs été planté par les soins de Madame du Barry en 1782. La demeure, elle, a été construite sous Louis XIV. Très fonctionnel, ce pavillon des eaux n'a rien d'un lieu de plaisir. En revanche, la vue sur la vallée de la Seine est époustouflante. C'est pourquoi Madame du Barry a l'idée de faire construire par un jeune architecte néoclassique, Claude-Nicolas Ledoux, un pavillon de musique au bout de son jardin, véritable hymne à l'amour du roi. Par le péristyle, on accède directement à la salle à manger. Le jour de l'inauguration, le 2 septembre 1771, c'est ici que la favorite offre à Louis XV un dîner aux chandelles. Sur une aquarelle de Moreau le Jeune, on distingue très bien le roi et Madame du Barry, on aperçoit Zamor, le petit page de la maîtresse de maison, et même la levrette Mirza entre les bras d'un chambellan. Au-dessus des convives, dans les tribunes, des musiciens chantent des airs à la mode. Le dîner terminé, on passe au salon, d'où les invités peuvent admirer un feu d'artifice. Le salon carré du roi était orné de miroirs et aucun détail n'a été laissé au hasard. Les plus grands artistes ont travaillé pour ce lieu. À l'origine, les murs devaient être ornés de 4 peintures de Jean-Honoré Fragonard, intitulé « Un rendez-vous, la poursuite, la lettre d'amour et l'amant couronné ». Mais les allusions trop appuyées aux amours de Jeanne et du roi déplaisent à Jeanne. Elle refuse ces chefs-d'œuvre, aujourd'hui conservés à la Frick Collection de New York, et les fait remplacer par une série de tableaux de Joseph-Marie Vien, intitulé « Les progrès de l'amour dans le cœur des jeunes filles ». Plus conforme au goût grec à la mode, dont elle est l'ambassadrice, mais aussi beaucoup plus sage. Alors que la soirée se termine, Louis XV est très impressionné par le pavillon et par le goût très sûr de Jeanne. Plus que jamais, la délicieuse jeune femme est sa favorite. Mais en ce règne finissant, c'est une position qui n'est pas de tout repos.
Jeanne est enfin libre d'affirmer sa personnalité. Pour cela, elle choisit d'inscrire ses pas dans ceux de sa principale devancière à la cour.
Madame de Pompadour reste le modèle de la favorite. Pourquoi ? Parce que Madame de Pompadour a réussi à se maintenir. Bourgeoise à la cour, elle a réussi à y mourir. Elle a su être un peu la protectrice des arts, on la dépeint comme ça. Très clairement, Madame du Barry se calque là-dessus.
Pour Jeanne, l'art est d'abord un moyen efficace de promouvoir son image, avec la complicité des plus grands artistes du moment, comme le sculpteur Augustin Pajoux.
Madame du Barry, c'est le triomphe de la sensualité à la cour.
Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles.
C'est vraiment sa carte de visite. C'est une très belle femme et les œuvres qui la représentent, que ce soit en peinture ou en sculpture, exaltent cette beauté. Avec ce buste, on a là effectivement la mise en valeur de la beauté des traits, mais aussi de l'érotisme qui est suggéré par le vêtement. Ce n'est pas vraiment une tenue de cour qu'elle porte là. Ce n'est pas non plus une tenue à l'antique. C'est plutôt un déshabillé de chambre, une tenue qui ne demande d'ailleurs qu'à tomber.
Madame du Barry réunit une superbe collection de sculptures, des plus spectaculaires aux plus intimes.
Cette jeune femme endormie dans le plus simple appareil, c'est Madame du Barry, représentée sur un coussin. C'est le témoignage de son goût pour une sculpture chargée d'érotisme.
Elle attire tous les regards et par conséquent, elle est capable de dans une certaine mesure, de faire la mode. Elle va protéger Claude Nicolas Ledoux, qui est le grand architecte néoclassique de cette époque.
Grâce au soutien de Jeanne, le bâtisseur du pavillon de Louveciennes obtient un très important chantier. La saline royale d'Arquesnans. Une usine de transformation du sel au cœur de la Franche-Comté.
L'un des grands objectifs de Claude-Nicolas Ledoux dans cette saline, c'est d'arriver à produire un lieu qui donne la beauté au peuple pour le rendre meilleur.
Grégory Lemoyne, historien à la saline royale d'Arquesnans.
C'est une entrée de l'art des hôtels de luxe dans une architecture industrielle du fait des colonnes, par exemple, de la maison du directeur qui sont les premières colonnes visibles dans une manufacture en Europe. On n'a jamais non plus accueilli un ouvrier du XVIIIe siècle avec une grotte d'ornement et des colonnes gréco-romaines à l'entrée. Les grottes d'ornement, par exemple, étaient typiquement réservées au jardin princier. Ledoux va devoir se justifier justement sur l'utilisation de colonnes à l'intérieur d'une usine. Le roi lui dira qu'elles ne sont faites que pour les temples et les palais des rois. Mais en définitive, ces colonnes furent acceptées dans le projet de la saline. Aujourd'hui, Ledoux est présenté dans de nombreuses écoles d'architecture comme un véritable chef de file de l'architecture postmoderne et contemporaine.
Protectrice des arts, Jeanne du Barry n'est pas à l'abri des intrigues. À Versailles, elle doit affronter une nouvelle menace. L'archiduchesse Marie-Antoinette, 14 ans, qui arrive de Vienne, pour épouser le dauphin Louis, 15 ans, petit-fils de Louis XV.
Lorsque Marie-Antoinette voit pour la première fois Madame du Barry, c'est la veille de son mariage, et elle voit une femme merveilleuse. Et elle demande à Madame de Noailles, qui est sa dame d'honneur, « Mais qui est cette dame ?»
Marie-Antoinette répond « Ah, eh bien, je serai sa rivale. » Elle n'a évidemment pas mesuré toute l'étendue de sa réponse.
On lui apprend ensuite qui est véritablement Madame du Barry. Alors, elle est scandalisée. On lui avait dit que Louis XV, c'était un souverain qui serait un grand-père affectueux, papa roi, comme l'appellent les enfants royaux. Oui, mais papa roi, on ne lui avait pas dit que c'était un libertin qui vivait avec une courtisane.
C'est une querelle de rang aussi, bien sûr, puisque Marie-Antoinette est la dauphine, et normalement la dauphine doit avoir la place principale, puisqu'il n'y a plus de reine. Or, il se trouve que Madame du Barry, par sa position qui n'est pas institutionnalisée de favorite, est la première dame du royaume.
Au lendemain de la nuit de noces calamiteuse de Marie-Antoinette avec le futur Louis XVI, les relations avec la du Barry ne font que s'envenimer.
Cette femme, qui est la grande prêtresse de l'amour, est au courant de la tristesse de ce mariage qui ne peut pas être consommé. Et pour Marie-Antoinette, c'est une humiliation. Par conséquent, elle l'ignore superbement, ce qui peine beaucoup Madame du Barry, qui s'en plaint au roi.
En quelques mois, la querelle de la sultane et de la dauphine devient une affaire d'État. Car au même moment, la mère de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse d'Autriche, est en train de se partager la Pologne avec la Prusse et la Russie.
Cette disparition de la Pologne est un scandale diplomatique. Il faut savoir que les confédérés polonais sont allés voir en délégation Madame du Barry pour lui demander l'aide de la France. Donc Marie-Thérèse est très inquiète que Madame du Barry puisse conseiller au roi de déclarer la guerre à l'Autriche.
Marie-Thérèse envoie donc son ambassadeur auprès de sa fille Marie-Antoinette pour la raisonner.
Et Marie-Antoinette s'obstine, refuse de parler à cette femme. Et Marie-Thérèse enfonce le clou en lui disant « Vous êtes la sujette du roi et si le roi vous demande d'être aimable avec Madame du Barry, vous devez l'être. » Enfin, Marie-Antoinette se soumet et le jour de l'an de 1772, elle dit à Madame du Barry « Il y a bien du monde ici ce soir à Versailles. »
Alors évidemment, ça fait traîner de poudre, ça y est, elle lui a parlé. Et donc Madame du Barry est satisfaite, le roi est satisfait.
Ça met fin à 2 ans de rivalité, de tension, de mépris. Toutes les cours et les chancelleries européennes sont très contentes en se disant « on va éviter la guerre ». Seulement, au mois de septembre, le partage de la Pologne est terminé. Et à partir de ce moment-là, Marie-Antoinette cessera définitivement de lui adresser la parole, ce qui va continuer à créer de véritables tourments pour Madame du Barry.
Régnant sur le cœur du roi, Madame du Barry se console en profitant des fastueuses commandes de mobilier que lui permet sa position.
Elle veut des choses plus sculptées, elle veut des choses plus extravagantes, elle veut des choses plus spécifiques.
Jacques Garcia, décorateur.
Tout ça, plus, c'est ça, ce qu'on appelle le trop. Elle a une personnalité qui la fait voir les choses avec un œil différent.
Madame du Barry a possédé une commode extrêmement célèbre qui avait été livrée pour sa chambre dans son appartement à Versailles.
Catherine Goujon, documentaliste scientifique au musée du Louvre.
Elle a également possédé ce guéridon. Alors ce guéridon est une table volante exécutée par Martin Carlin, qui est un des très grands ébénistes de la fin du XVIIIe siècle, avec un pied unique de forme tripode. La face est agrémentée de plaques de porcelaine qui sont absolument somptueuses. Une plaque centrale, ronde, de grande dimension, qui a été exécutée d'après un tableau de Karl von Loh, le concert du Grand Sultan. Ce goût pour les turqueries, de ce goût pour l'Orient qui fascinait complètement les Occidentaux au XVIIIe siècle.
À Versailles, si Louis XV se montre toujours très amoureux de sa favorite, Jeanne n'est pas sans inquiétude.
Louis XV a toujours été écartelé entre ses désirs sensuels et puis son éducation chrétienne, sa foi chrétienne. Il a la crainte de l'enfer, il a la peur de l'enfer. Il sait qu'avant de mourir, il faudra qu'il se confesse, qu'il regrette ses péchés et donc qu'il se sépare.
Je ne pense pas qu'elle ait véritablement insisté pour se faire épouser. Et d'ailleurs, Louis XV n'y tenait pas trop. Il a déclaré à ses ministres, il a dit non, elle ne sera jamais ma maintenant.
On a un Louis XV beaucoup plus détaché. On a ce mot de lui, est-il véridique, elle me plaît, j'en suis content, cela doit suffire, qui clôt vraiment le bec à toutes les représentations qu'on pouvait lui faire.
Mais si les scrupules continuent d'assaillir Louis XV, c'est que la plus jeune de ses filles, Madame Louise, vient de faire un choix qui le bouleverse. En 1770, la princesse prononce ses vœux au Carmel de Saint-Denis.
Nous voilà maintenant dans la cellule de Madame Louise. Lorsqu'elle était prieure du Carmel, en fait, Madame Louise vivait ici. Et vous voyez que c'est un ensemble très très sobre qui est le quotidien de la vie des carmélites.
Sylvie Gonzalez, directrice du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis.
Et lorsqu'elle se couche sur un lit de paille, eh bien, elle a en face d'elle une sentence du Carmel qui est l'éternité, c'est-à-dire toute la longueur de la vie pour prier le Seigneur, que ce soit sur terre ou que ce soit au ciel.
Loin des ors de Versailles et de la du Barry, Louis XV rend parfois visite à sa fille préférée.
C'est plus un homme qui vient rendre visite à sa fille que le roi de France qui vient rendre visite au couvent de Saint-Denis. Louise de France va ramener Dieu dans le cœur du roi, et c'est aussi pour ça qu'elle rentre au couvent de Saint-Denis, pour, par sa conduite, racheter la conduite dissolue de son père.
En attendant que son vieil amoureux se mette en règle avec Dieu, Jeanne s'étourdit à ses côtés dans les fêtes brillantes et coûteuses qui marquent la fin du règne.
Elle est obligée de vivre au jour le jour en espérant que ça durera le plus longtemps possible. Louis XV ressent les dernières années avec beaucoup de peine, il s'alourdit, il grossit. Elle sait que ça sera la disgrâce immédiate à la mort de Louis XV.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secrets d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.